Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
C'est l'heure de prendre des nouvelles d'Europe avec notre correspondant parlementaire du Devoir, Christian Rioux. Bonjour, Christian.
Bonjour, Pierre.
Écoute, t'en parles dans ton papier aujourd'hui. C'est quand même des gros chiffres, là. 2000 classes et 76 écoles primaires qui sont présentement fermées en France.
Oui, oui, 2000 classes et 76 écoles, là. Mais vous savez, 2000 classes, si on regarde les proportions, j'ai vu qu'il y en avait, dans la presse d'hier, qu'il y en avait 234 au Québec. Alors, on est pas loin d'être dans
au prorata.
Qui se ressemble. En tout cas, c'est pas très loin. Et ce qui a surpris un peu les gens ici, c'est que, bon, on sait qu'il y a une recrudescence de l'épidémie en France, puis encore plus en Espagne ou en Italie, mais le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé ont décidé d'alléger les dispositifs à l'école, et notamment à l'école primaire en particulier. Comme au Québec, le port du masque n'est pas obligatoire à l'école primaire, évidemment pas en maternelle. Il l'est au secondaire, même si le secondaire commence un peu plus tôt ici, là, vers 11 ans, en sixième année. Donc, on a décidé de ne plus fermer des classes à partir du moment où il y aurait un cas de contamination confirmé, mais seulement à partir de 3 cas. Et la personne testée, la personne dont on sait qu'elle est contaminée, va simplement se mettre en retrait pendant faire une quarantaine de 7 jours, parce que c'est 7 jours maintenant ici la quarantaine, ça a été réduit, et reviendra à l'école après sa quarantaine, peut-être avec un mot du médecin ou quelque chose du genre. Donc, on veut vraiment maintenir les classes, les groupes classes ensemble, éviter de les fermer juste quand il y a un seul cas. Et ça, c'est la suite d'une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique en France qui soutient et qui affirme que les enfants finalement sont, vous savez qu'on a changé d'idée souvent, mais que les enfants sont finalement assez peu contagieux. Et les autorités françaises là-dessus s'appuient notamment sur deux études qui ont été faites ici en France. Une étude qui a été faite en Île-de-France avec 605 enfants. Une autre étude qui a été faite, tout ça, ça a été fait cet été, là, autour du mois de juillet. Une autre financée par l'Institut Pasteur avec 1340 personnes à Crépy-en-Valois, pas très loin de Paris. Et les deux études confirment que les enfants seraient finalement assez peu contagieux. Il y aurait très peu d'enfants qui transmettraient soit à un autre enfant, soit à un adulte, la maladie. Et ils en veulent pour preuve qu'il y a très peu de foyers dans les garderies, hein, dans ce qu'on appelle les crèches ici, chez les très jeunes enfants. Il y a très, très peu de foyers. Alors, comment ça se fait tout ça? Parce que vous savez qu'il y a des cet été, on avait eu des études américaines qui disaient, notamment faites à Chicago, qui disaient que les enfants étaient très porteurs de virus, c'est-à-dire qu'ils avaient une charge virale très très importante. Mm-hmm. Alors comment est-ce qu'on fait si on a une charge virale importante pour être moins contagieux qu'un adulte? Et ce que disent les experts ici, c'est que compte tenu que les enfants sont petits, qu'ils projettent moins, finalement, ils projettent d'abord à la bonne hauteur, c'est-à-dire à une hauteur qui est moins contagieuse pour les adultes, et qui projettent beaucoup moins de
micro-gouttelettes
voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qui expliquerait, selon, en tout cas, notamment Robert Cohen, qui est vice-président de la Société française de pédiatrie, ce qui expliquerait que les enfants sont, finalement, pas du tout les super
propagateurs
qu'on avait imaginé au début, hein. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, on pensait que fermer les écoles, c'était la première mesure à prendre, alors que peut-être qu'il aurait fallu plutôt porter des masques, pratiquer la distanciation physique. Et donc, en tout cas, en France, on arrive aujourd'hui à cette conclusion-là. On verra si elle va se maintenir, mais on veut vraiment mettre l'accent là sur, notamment aussi sur le rattrapage scolaire, parce que les enseignants trouvent que ils ont trouvé des élèves dans un état qu'ils auraient préféré ne pas voir, c'est-à-dire avec énormément de disparités, beaucoup d'enfants qui ont, semble-t-il, la difficulté à se concentrer, et donc des disparités considérables dans la classe. Et le ministre, en tout cas de l'Éducation, considère que la priorité dans les écoles en ce moment, c'est vraiment le rattrapage scolaire, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait pendant l'hiver dernier. Oui, c'est ça, absolument. C'est vraiment une situation très difficile en ce moment, je dirais, pour les enseignants sur le plan pédagogique et sur le plan académique aussi.
Ben oui, parce que tu mentionnes dans ton article que les enseignants qui portaient un masque et ayant côtoyé l'élève contaminé en question sont pas non plus invités à s'isoler pour le moment. Mais dis-moi, est-ce que les gens là-bas, les parents, réagissent avec dubitatif un peu de cette décision-là? Ou si parce que au Québec, on dirait ça, on ferait comme, ben voyons donc, s'il y a un enfant contaminé, c'est sûr qu'il faut fermer la classe. Là, les parents réagissent comment en France?
Oui, écoutez, les parents ont réagi surtout inquiétés sur le fait que les messages changent. Vous voyez, c'est ce qui est très difficile dans cette épidémie là, c'est qu'on avait une connaissance X, au mois de mars, on avait une connaissance Y au mois de juin, puis là aujourd'hui on en a une autre. Et donc les messages n'ont pas arrêté de changer. Mm-hmm. Et c'est ce que les parents constatent, les grandes associations de parents. Ici, on dit, ben, écoutez, on espère que là, c'est le bon message, parce que le message n'a pas arrêté de changer. Mais je pense qu'en même temps, c'est aussi notre connaissance de la maladie qui change, puis qui change très, très, très rapidement. C'est une affaire de semaines et même de mois. Donc, ça a été un peu ça, la réaction des parents. Évidemment, les parents ne sont pas très contents. Les syndicats aussi, d'enseignants, ont réagi. Mais l'argumentation du Haut Conseil de la Santé publique a l'air assez ferme. Et je dirais, les pédiatres, les experts sont sortis dans les médias pour expliquer que, selon eux, les enfants, finalement, étaient beaucoup moins contaminants que les adultes. Mmh. Et donc, que selon eux, en tout cas, cette décision-là était justifiée. Il n'y a pas vraiment de pédiatres ou d'experts là, qui ont contesté cette décision-là.
Donc, les parents réagissent de façon avec responsabilité, un peu dubitatif, mais suivent le mouvement.
Oui. Par contre... Inquiet du fait que le message change.
Ben oui. Ben, on vit ça ici aussi, comme tu le sais.
Vivre avec ça, là.
Bien sûr, t'as bien raison. Je pense que c'est planétaire, ce constat qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et par contre, les parents ont peut-être réagi avec discernement ici, mais les jeunes, les lycéennes ont réagi fortement à une consigne du ministre Jean-Michel Blanquer sur il parlait d'une tenue républicaine pour l'école. Raconte-moi cette histoire.
Oui, absolument. Vous savez, à chaque rentrée scolaire, il y a ces polémiques. Puis je pense qu'il y avait eu une polémique semblable au Québec il y a peut-être un an là, si je me souviens bien. Effectivement, il y a beaucoup de, je sais pas si c'est la cause du confinement, mais il y a beaucoup de jeunes filles en particulier, peut-être parce que les gens ont passé le confinement en pyjama ou en slip ou en boxer, je ne sais pas, et que là tout à coup, en tout cas, un certain nombre d'élèves se sont présentés dans des collèges, qui est l'école secondaire ici, dans des tenues jugées plutôt extrêmement sexy ou des tenues très légères. Et donc, il y a eu des réactions, évidemment, des directions d'école qui ont averti surtout les jeunes filles dans ce cas-là. Et là, ça s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a eu vraiment une espèce de réplique là assez véhémente de ces jeunes filles-là qui, évidemment, s'organisent sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a vu des slogans comme « Balance ton bahut ». Hein, le bahut, c'est le collège. « Balance ta polyvalente », mettons, on pourrait dire. Et des appels aussi à venir habiller avec le nombril à l'air le lundi, par exemple, à l'école. Et effectivement, le ministre de l'Intérieur a réagi. Le ministre Blanquer a dit que... a réagi, je dirais, un peu en bon père de famille, en disant « Écoutez, il s'agit de s'habiller normalement. On n'est pas à la plage, puis on n'est pas non plus plus au couvent. Donc voilà. Et même le président Emmanuel Macron a réagi en disant qu'il fallait quand même garder quelques codes. Parce que, dit-il, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
Mais le mot façon républicaine a été repris avec beaucoup d'humour par beaucoup d'artistes et d'influenceurs. On a vu des photos de gens habillés quasiment tout nus, mais avec un drapeau français.
Avec un drapeau français, voilà, ça, vous pouvez venir tout nu, mais en autant que vous avez une cocarde ou quelque chose disant oui, non, mais c'est toujours, en France, c'est toujours des sujets où on s'amuse beaucoup. Mais évidemment, on est en France et donc, il y a des organisations islamistes qui en ont profité pour dire, ben, regardez, si les jeunes filles veulent venir le nombril à l'air, pourquoi nous, on n'irait pas avec le voile? Parce que vous savez que dans les écoles françaises, le port du voile pour les élèves est interdit. En fait, tout le port de tout signe religieux trop apparent ou signe politique aussi trop apparent. Donc, on a vu s'infiltrer ces organisations-là dans ce débat où les jeunes filles soutiennent, sont souvent soutenues aussi par leurs amis, par des garçons, affirment que c'est ma liberté. J'ai le droit de porter, dans le fond, ce que je veux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ces jeunes filles, en général, portent ce que porte leur idole sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Vous voyez, on les voit rarement arriver habillées complètement différemment de ce qu'on voit dans les clips vidéo ou dans les chansons de rap. Et donc, ce qui est un peu étonnant, surprend un peu les gens ici, c'est d'invoquer cette liberté individuelle-là, alors que, dans le fond, on suit généralement, de manière peut-être un peu moutonne, la mode et les grandes tendances qu'on voit dans les mass-médias. Mais ça a créé, en tout cas ici, un vrai débat, et notamment, ça a fait ressurgir le débat du voile, qui ressurgit à chaque fois. Le voile, qui est évidemment considéré beaucoup en France comme un symbole d'oppression des femmes, en tout cas un symbole de minorisation ou de mise de côté des femmes, d'effacement des femmes. Étrange de voir des organisations islamistes utiliser le débat sur le nombril à l'air pour tout à coup faire ressurgir la question du voile islamique. Donc ça a créé un petit émoi ici, mais disons que ça va revenir probablement à la rentrée prochaine.
Des fois, s'astiner sur un sujet plus léger, ça change les idées un peu. C'est peut-être bon pour tout le monde de parler d'autres choses. Merci, Christian.
Oui, ça nous change la COVID, peut-être.
Oui, c'est ce que je crois. Oui. Alors, merci pour cette chronique hebdomadaire. On te retrouve la semaine prochaine. Merci, Christian Rioux.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir, Christian Rioux, qui est correspondant parlementaire à Paris pour Le Devoir. Merci.